Et avec nous ce samedi matin aussi, bien sûr, François Clémenceau du journal du dimanche. François, bonjour.
Bonjour Bernard.
La mort politique d'Abdelaziz Bouteflika. Parlons-en. Parlons aussi des manifestations qui gagnent en ampleur en Algérie depuis 6 semaines. Alors vous vous demandez, François Clémenceau, ce matin, si ce pays n'est pas en train de vivre, toute proportion gardée, mais enfin quand même, ce qu'ont vécu les pays de l'Est à la fin des années 80.
Oui, il faut évidemment toujours se méfier des comparaisons en histoire, en géographie, mais il y a tout de même des éléments utiles à rappeler pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui. D'abord, évidemment, la proximité entre l'Algérie et l'Union soviétique, pendant très longtemps devenue la Russie. Moscou s'est engagé dès le départ en faveur des mouvements anticolonialistes et une fois l'indépendance acquise en Algérie, elle leur a fourni les sciences, les techniques, les armes, le conseil fraternel. Tous les généraux, par exemple, qui ont l'âge aujourd'hui du chef d'état-major Ahmed Gaïd Salah, ont fait leur académie militaire en URSS, oui, ou dans les pays satellites comme la Roumanie ou la Pologne, et leurs frères d'armes plus jeunes en Russie. Aujourd'hui, la moitié des armes russes vendues en Afrique vont à l'Algérie, qui vient d'acquérir par ailleurs le système GLONASS pour ses armées, l'équivalent russe du GPS américain.
Ça, c'est la partie militaire de la chose. Et qu'en est-il du politique?
Alors, c'est plus opaque. Jusqu'en 1988, l'Algérie s'est inspirée du modèle du parti unique soviétique, c'était le FLN, et du syndicat unique également, l'UGTA, ainsi que pour le contrôle de la société civile par les services de renseignement formés aux méthodes du KGB. Mais après les émeutes de 88, les réformateurs algériens, comme Mouloud Amrouche, qui était une sorte de version Gorbatchev, ou Sid Ahmed Rosali, de version Yeltsin, ont introduit le multipartisme, la liberté de la presse, même si elle reste très encadrée, la liberté d'expression, avec en même temps une coopération qui s'est intensifiée avec l'Europe ou les États-Unis. Mais ces années de dégel, de perestroïka à l'algérienne, elles ont également eu une influence sur l'opposition.
Mais aujourd'hui, tout de même, on a l'impression qu'en dehors de la rue et des manifs, l'opposition partisane politique classique, elle est morte.
Oui, disons que l'opposition, comme après la fin du communisme et dans les périodes de transition qui ont suivi, a été tolérée. Sauf que les premiers à en avoir bénéficié en Algérie, ce sont les islamistes. Oui. Jusqu'au succès dans les urnes dès 1990. C'est dire la rancœur qui existait déjà dans ce pays contre le système. 10 ans et plus de 100 000 morts plus tard, l'opposition a été en partie retournée contre l'ennemi commun, l'islamisme. Certains sont même allés partager le pouvoir en échange d'une forme de bienveillance. Les autres ont été marginalisés dans l'humiliation. Mais avec ces foules qui manifestent aujourd'hui, cette sorte d'autogestion d'une contestation tous azimuts, eh bien oui, on retrouve l'esprit qui a animé les mouvements comme celui de solidarité en Pologne, de la révolution de velours en Tchécoslovaquie, du forum démocratique hongrois. Tous étaient différents, mais leur dénominateur commun était d'en finir avec un système sclérosant au nom des libertés. Alors ne cherchons pas forcément la comparaison aujourd'hui de ce qui se passe en Algérie avec les printemps arabes. Essayons plutôt de repérer dans cette révolution en cours le Valéza algérien et le Jaruzelski en uniforme qui essaiera de négocier avec lui le long chemin vers la démocratie.